On va commencer peut-être. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer personnellement. Merci d'être fidèles à notre troisième soirée. Il y a des papiers qui... Donc ce soir, nous allons explorer l'angle de vue orthodoxe et l'angle de vue évangélique de notre problématique, la CMA et la GPA. Nous avons invité pour cela, et nous les remercions,
Madame Julia Vidovic, qui est enseignante à l'Institut Saint-Serge à Paris en bioéthique, et le pasteur Thierry André, qui, voilà, alors je vais leur laisser le soin de se présenter plus précisément et vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire d'eux-mêmes. Et alors ce soir, nous n'allons pas faire d'atelier parce qu'avec deux intervenants, c'est un petit peu compliqué. Donc leur intervention va durer entre 35 et 40 minutes, quelque chose comme ça. Cela dit, je ne vous mets pas la pression.
Hein. Très bien, on a entendu.
Et puis... on gardera 5-10 minutes de questions spontanées sur une précision ou quelque chose que vous voudriez approfondir. Après chaque intervention. Voilà. On terminera, en tout cas pour Madame Vidovic, pile à l'heure parce qu'elle a un train à prendre. Voilà, aujourd'hui avec la SNCF, il vaut mieux être pile à l'heure. En tout cas pour elle. Et puis voilà. Et puis ensuite, je vous ferai une annonce à la fin, mais c'est autre chose dans un autre domaine. Voilà, merci, je vous laisse la parole.
C'est moi qui va commencer.
C'est vous qui commencez. Si je mets le micro en marche, ça sera beaucoup mieux.
Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui, il faut rapprocher.
Voilà.
D'accord, très bien. Bon, je vous dis bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ce soir avec vous. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis dans la région. Donc je découvre même à travers la nuit et la pluie. Mais vraiment, je vous suis reconnaissante et j'espère qu'on va passer une belle soirée ensemble. Donc, on m'a demandé d'intervenir pour vous présenter la position de l'Église orthodoxe. Probablement, vous le savez ou vous ne le savez pas, l'Église orthodoxe est divisée en plusieurs patriarcats. Et donc, en réfléchissant au sujet de ce soir... J'avais deux options, aller chercher dans des positions de théologiens ou bien vous présenter les documents officiels. Et je trouve que c'est assez bien de voir ce que l'Église dit et comment elle se positionne de manière officielle. Et puis, par la suite, de faire un retour, une relecture pastorale. Effectivement, qu'est-ce que ce qui a été dit, comment est-ce que cela peut être mis en pratique dans nos paroisses, ou qu'est-ce qui se fait au sein de nos paroisses, ou ce qui ne se fait pas, et quelles sont les questions avec lesquelles on y ressort. Donc, sachez-le bien, les questions auxquelles on est confronté, on n'a pas de solution. En tout cas, ce n'est pas des solutions faciles, et si on les a, ça veut dire que peut-être on n'a peut-être rien compris dans le débat. Donc, le sujet qui m'a été demandé ce soir s'intitule, comme en général les conférences, « Nos églises devant la PMA et la GPA », donc la position des églises orthodoxes. Ma conférence, malheureusement, je ne peux pas vous la projeter en PowerPoint. Il y a un problème technique, mais ce n'est pas grave. En tout cas, elle se divise en trois parties, trois grandes questions. La première est celle donc, de savoir quelle est ou quelle serait la position de l'Église orthodoxe quant aux pratiques de la PMA et de la GPA. La deuxième, quelles sont les propositions qui ont déjà été faites par les différentes Églises orthodoxes. Et la troisième, quelles pourraient être quelques propositions et orientations pastorales. Quatre églises orthodoxes se sont jusqu'à présent prononcées de manière officielle sur les questions bioéthiques, à savoir le Conseil des évêques orthodoxes aux États-Unis en 1992, l'Église orthodoxe russe en 2000, l'Église orthodoxe roumaine en 2004 et 2005, et l'Église orthodoxe de Grèce en 2005 aussi. À cette occasion, je ne vais pas aborder ce qui a été dit par l'Église orthodoxe roumaine, parce que ce document-là ne portait pas sur les questions ni de la PMA ni de la GPA. C'était en particulier la question de donation d'organes, de l'avortement et de l'euthanasie. Quant au document du Conseil des évêques orthodoxes en Amérique, le document présente, quant à la question de la procréation, l'affirmation et l'exhortation suivante pour la direction des fidèles. Donc, j'utilise aussi leurs mots. La procréation des enfants doit avoir lieu dans le contexte de l'union conjugale où le père et la mère acceptent les soins des enfants qu'ils conçoivent. Donc, la procréation se fait au sein d'une famille. Après, c'est les États-Unis, 1992, ils ont dit qu'ils ont besoin, dans le contexte actuel, de revoir les choses. Mais c'est intéressant de voir qu'en 1992, les questions ont été réfléchies. Les couples mariés peuvent exprimer leur amour par l'union sexuelle sans toujours avoir l'intention de concevoir un enfant, mais seuls sont acceptables les moyens de contrôle de la conception dans le mariage qui ne nuisent pas à un fœtus déjà conçu. Donc, ça ouvre déjà la question du statut de l'embryon. Les couples mariés peuvent utiliser des moyens médicaux pour améliorer la conception de leurs enfants, commun, mais l'utilisation de sperme ou d'ovules autres que ceux que du couple marié qui prendra la responsabilité de leur progéniture est interdite. Donc la PMA est acceptée dans le cadre de la famille, mais en dehors du contexte du mariage, ne l'est pas. Donc pour résumer et donner un commentaire du document, on peut dire que la procréation, selon le document du Conseil des évêques orthodoxes en Amérique, n'est envisageable que dans le contexte de l'union conjugale entre un homme et une femme qui acceptent de prendre soin de leur progéniture. Leur union sexuelle ne doit pas forcément tendre vers la conception de l'enfant, mais elle ne doit surtout pas nuire à une grossesse au cours. Recourir à une PMA est envisageable sans pour autant procéder à l'utilisation des gamètes de tiers. Voilà, ce sont les positions exprimées par ce document-là. Église orthodoxe russe a publié le document en 2000, dont l'intitulé est « Les bases de la conception sociale de l'Église orthodoxe russe », dans lequel, c'est un grand document, le chapitre 12 est entièrement dédié à la problème de bioéthique. Nous allons nous focaliser sur le point 4 de ce chapitre 12. Le document, vous pouvez le trouver en ligne, traduit en français. Il porte donc sur la PMA et la GPA. Et voici ce que souligne le document. Quant à l'accès à la PMA, l'emploi des nouvelles méthodes biomédicales permet, dans bien des cas, de vaincre la stérilité. C'est ce qui est souligné. Dans le même temps, l'intervention technologique croissante dans le processus de la conception de la vie humaine, présente une menace pour l'intégrité spirituelle et la santé physique de la personne. Rend possible l'établissement de l'idéologie d'un droit à la reproduction, se propageant au niveau national et international. Donc, ça met aussi les pratiques médicales dans un contexte social et idéologique en même temps. Peut manquer de soucis pour l'enfant à venir. Le monde regarde de plus en plus la vie humaine comme un produit que l'on peut choisir en fonction de ses penchants personnels et dont on peut disposer à l'égal des valeurs matérielles. Les prières du rite du couronnement expriment la foi de l'Église orthodoxe en ce que la naissance d'enfant est le fruit désiré d'un mariage légal.
Contre quelques problèmes de connexion, veuillez réessayer plus tard.
Merci. Sans être son but unique. Les méthodes de fécondation ne correspondant pas au dessein du Créateur de la vie ne peuvent être considérées par l'Église comme moralement justifiables. Donc on introduit aussi un point théologique. Si le mari ou la femme ne sont pas aptes à concevoir un enfant et que les méthodes thérapeutiques et chirurgicales de guérison de la stérilité n'aident pas les époux, ils doivent concevoir humblement l'absence d'enfant comme une vocation particulière. Donc, accepter le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants. Si finalement les techniques ne sont pas, ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Les recommandations pastorales, dans semblables cas, doivent prendre en compte la possibilité de l'adoption d'un enfant sur un accord mutuel des époux. La fécondation par les cellules sexuelles du mari fait partie des moyens d'aide médicale admissibles dans la mesure où elle ne viole pas l'intégrité de l'union conjugale et ne diffère pas dans son principe de la conception naturelle dans le contexte des relations conjugales. Donc, c'est l'utilisation de sperme. Le deuxième point, donc ça, c'était l'accès à la PMA. Le deuxième est justement l'utilisation de dons et des gamètes de tiers. Le document souligne que les manipulations faisant intervenir le don de cellules sexuelles détruisent l'intégrité de la personne et le caractère exclusif des relations conjugales en admettant l'irruption d'un tiers. Cette pratique encourage l'irresponsabilité, paternelle ou maternelle, un dégagement de toute obligation envers celui qui apparaît comme chair de la chair, d'un donateur anonyme. L'utilisation du matériel des donateurs sape les fondements des relations familiales, dans la mesure où elle suppose l'enfant est non seulement des parents sociaux, mais aussi des parents biologiques. Donc le problème pose l'instauration de deux types de parents. Quant à la GPA, il faut savoir qu'en Russie, la GPA est admise par la loi. Donc... et aussi l'utilisation de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules. Donc, le phénomène des mères porteuses, c'est-à-dire le port d'un ovule fécondé par une femme qui, après l'accouchement, doit remettre l'enfant au client, entre guillemets, est contraire à la nature et moralement inacceptable, même dans le cas où il est pratiqué à des fins non commerciales. Cette méthode suppose la destruction de la profonde intimité affective et spirituelle qui s'établit entre la mère et l'enfant dès la grossesse. Le phénomène des mères porteuses est un traumatisme aussi bien pour la femme, dont les sentiments maternels sont bafoués, que pour l'enfant qui peut par la suite connaître une crise d'identité. Le quatrième point, c'est le statut de l'embryon. Donc, brièvement, le document se positionne aussi là-dessus en disant que du point de vue orthodoxe, toutes les formes de fécondation in vitro, supposant la préparation, la conservation et la destruction délibérée des embryons en surnombre, sont également inadmissibles. C'est justement sur la reconnaissance à l'embryon de la dignité humaine qu'est fondée l'appréciation morale de l'avortement condamné par l'Église. Donc, la conception, dès la conception, l'embryon est considéré comme étant potentiellement un être humain, une personne humaine. Le document aussi donc, se positionne sur la PMA pour les femmes seules. La fécondation de femmes seules par l'utilisation de cellules sexuelles de donateurs ou la réalisation des, entre guillemets, droits à la reproduction d'hommes seuls ou de personnes manifestant selon une forme consacrée des orientations sexuelles non standardisées, donc là ils entendent les couples du même sexe, privent l'enfant, un être, du droit d'avoir un père et une mère. L'emploi de méthodes reproductives en dehors du contexte béni par Dieu, de la famille, s'apparente à une forme de lutte contre Dieu, mise en œuvre sous couvert de défense de l'autonomie humaine et d'une conception viciée de la liberté de la personne. Donc, pour résumer ce qui a été dit par ce document-là, pour une meilleure orientation dans le texte, nous l'avons divisé en 5 parties. Donc, la première portant sur l'accès à la PMA, qui n'est pas interdite tant qu'elle reste dans le cadre des rapports conjugaux, qui garantissent une stabilité familiale pour l'enfant à venir. Néanmoins, il est précisé que l'utilisation de la PMA peut conduire à d'éventuelles formes de commercialisation de la procréation et instaurant une idéologie d'un droit à la procréation ou à l'enfant. Or, là où les techniques n'arrivent pas à vaincre la stérilité, il est conseillé à ne pas s'obstiner, mais à accepter l'absence de l'enfant comme une vocation particulière. Quant à la donation et à l'utilisation des gamètes de tiers, cette pratique est interdite car elle risque de mettre en danger les liens familiaux. Il est intéressant de noter que non seulement la PMA pour les femmes seules, mais aussi la GPA sont autorisées en Russie. Ainsi, l'Église, dans le document présenté, porte son avis sur ces deux approches de la procréation. Cet avis est négatif, car hautement défavorable aussi, bien pour les femmes que pour les enfants, brisant la profonde intimité affective entre la mère et l'enfant, quand il s'agit des pratiques de la GPA et celle de l'enfant qui se voit naître orphelin, sans filiation paternelle quand il s'agit de la pratique de la PMA pour les femmes seules. Ce qui nous laisse, par contre, à notre faim, en lisant ce document, c'est une rigidité de ton sans approfondissement théologique qui aurait pu servir de parole pastorale qui accompagne des décisions lourdes à prendre. Puisque s'il s'adresse de cette manière-là à ses fidèles, bon, c'est un peu sans vraiment développer les points énoncés. Ce manque nous semble être pallié par le document produit par l'Église orthodoxe grecque. Il faut savoir que le synode de l'Église orthodoxe grecque, en ça même, ils ont un comité dédié à des questions de bioéthique qui est assez important, qui est assez actif. Et souvent, ils produisent de documents de bonne valeur. Donc, le synode de l'Église de Grèce a rédigé et adopté un document portant particulièrement sur la PMA et la GPA en octobre 2005. Aussi en Grèce comme en Russie, les pratiques sont adoptées par la loi. Le document s'intitule « Position fondamentale sur l'éthique de la reproduction assistée ». Le document peut être divisé en 6 parties. La première, c'est l'accès à la PMA. Le deuxième, la position de l'Église quant à l'accès de la PMA de ses fidèles. Le souci de stérilité, le troisième point. Le quatrième, la prise en compte des intérêts de l'enfant à venir. Le cinquième, le statut de l'embryon. Et le sixième, les questions ouvertes par la fécondation in vitro. Donc, quant au premier point, l'accès à la PMA, le document dit que les techniques modernes de reproduction permettant la réalisation des attentes des époux moins féconds et permettent de satisfaire aux besoins profonds de paternité et maternité. Donc, la technique elle-même permet à pallier à des besoins hautement compréhensibles humains. Ils peuvent renforcer le couple, mais peuvent aussi le mettre en danger. Danger de mécanisation d'un fait qui est par excellence personnel, profondément sentimental et sacré. La conception doit être le fruit d'une libre et humble soumission de la volonté des parents à la volonté de Dieu. Le caractère sacré du début de la vie d'un être humain, cela veut dire que la technologie moderne nous introduit désormais à la logique des rapports conjugaux sans reproduction, et de la reproduction sans rapport conjugaux. Au moment sacré du début de la vie humaine, les parents ne sont pas ensemble, ni même présents. Quelle pourrait alors être la position de l'Église quant à l'accès à la PMA de ses fidèles ?
PMA.
PMA. Oui. Procréation médicalement assistée.
Oui.
D'accord. L'Église ne peut être perçue nullement comme une autorité formelle qui vise à contrôler et diriger notre vie. Elle n'a pas comme objectif l'imposition de règles et d'interdictions dans notre vie, mais la mise en place du critère qui nous guidera à la connaissance de la vérité qui libère, selon Jean 8, 32. un élément fondamental de l'anthropologie orthodoxe est la reconnaissance du caractère sacré de l'existence de l'être humain, qui réunit par son existence le monde perceptible et le monde intelligible. L'homme fait à l'image de Dieu au cours de son existence est appelé à atteindre la ressemblance divine, c'est-à-dire la déification et la sainteté. À la lumière de cet objectif-là, l'homme travaille, développe sa famille, cultive les arts et les sciences, organise les sociétés. Donc il ne s'agit pas de deux éléments séparés. Ainsi, lorsqu'on s'occupe et lorsqu'on touche à l'homme, a fortiori lorsqu'on expérimente avec lui, on commet un acte sacré et par conséquent, il faut agir avec sainte crainte et respect. L'homme, cependant, ne détermine pas sa propre existence. L'origine de sa vie est en Dieu, qui est le donateur. Ainsi, la vie peut être perçue comme un don et susciter l'émerveillement. Le document, lui, souligne l'importance de la double nature psychosomatique de l'homme. Là, il y a tout un débat sur est-ce que c'est double ou triple, mais on n'entrera pas. Et le document lui-même n'entre pas, donc je n'aborde pas ce sujet. Le début biologique de l'être humain marque en même temps sa naissance en tant qu'entité psychosomatique avec la capacité inhérente de devenir l'enfant de Dieu, selon Jean 1, 12. La fécondation avec la vie et l'entité biologique attribue à l'homme son existence, son être, son âme. L'âme n'entre pas dans le corps, elle est co-engendrée avec le corps. Même si la conception de chaque homme possède un début, l'homme étant conçu n'a pas de fin, selon l'anthropologie orthodoxe, car la destination divine et la perspective du royaume donnent au moment de la vie et de la conception un aspect unique qui dépasse les limites de l'identité biologique et la vie éphémère. Maintenant, le document passe au troisième point, à savoir le souci de stérilité. Le document souligne le besoin de la femme et de l'homme de se réaliser en tant que parents. Donc ce besoin-là n'est pas évacué. Ainsi, la stérilité représente ou peut devenir effectivement une croix insurmontable qui entraîne souvent des troubles psychiques intenses, de grandes difficultés sociales et parfois même des problèmes insurmontables pour l'harmonie du couple. L'Église, selon le document, s'oppose à la conception selon laquelle la sous-fécondité représente un handicap ou un facteur de faiblesse sociale. Ainsi, le document rappelle que, je cite, « les couples qui ont des difficultés à procréer, mais qui ont une orientation spirituelle précise, très fréquemment deviennent très productifs dans d'autres secteurs de la vie spirituelle et sociale. » L'Église, tout en saluant le progrès technoscientifique, perçoit qu'il transforme souvent les désirs en besoins et rend la lutte pour la liberté spirituelle plus ardue. Donc ce qui était de l'ordre du besoin devient, du désir devient un véritable besoin. Le paradoxe de nos jours est le suivant. Malgré le fait que de nos jours le désir de procréation des parents fécond et dangereusement déprécié, le besoin des parents sous-féconds d'avoir des enfants devient socialement et psychologiquement un impératif. Le problème est d'autant plus intense là où nous avons des sociétés closes où la pression sociale empire les choses. L'Église pourrait aider donc à cultiver la notion selon laquelle la naissance d'un enfant soit considéré comme une grande bénédiction, évidemment, mais en même temps que la sous-fécondité ne dévalorise pas les époux, ne porte pas de préjudice à la réalisation et n'abolit pas le mariage. La technologie moderne, bien qu'elle soit une grande bénédiction de Dieu pour l'homme, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse et respect, donne à l'homme en même temps la possibilité de s'opposer à la volonté de Dieu, comme elle se manifeste à travers ses lois naturelles. Les lois naturelles, c'est un peu différent dans la conception de l'Église orthodoxe. Il faut avoir toute la cosmologie en vue pour en discuter. Et là où Dieu veut, l'homme peut s'opposer. Et là où Dieu refuse, l'homme peut persévérer. Quatrième point du document concerne la prise en compte des intérêts de l'enfant à venir. L'enfant ne vient pas au monde pour décorer la vie de ses parents, ni pour augmenter leurs biens dans cette vie, ni pour constituer leur suite biologique et psychologique. Le document insiste sur le fait que l'enfant est la création de Dieu et pour la vie éternelle. Donc avant d'appartenir aux parents, il appartient à Dieu. Le statut de l'embryon, le document l'aborde brièvement, une phrase en disant que le statut lui-même de l'embryon est une question complexe qu'il ne faudrait pas aborder directement, mais à travers les différentes pratiques. Donc, ainsi, le statut et la nature de l'embryon, ainsi que sur sa situation spirituelle et ses droits moraux, doivent être envisagés selon les questions qui sont ouvertes par la fécondation in vitro, donc par la pratique elle-même. Et alors là, le document relève quelques points. La conception par les techniques modernes est asexuée et porte en soi plusieurs risques. Accepter l'idée de la fabrication de l'être humain, possibilité de fécondation suspecte, le risque de traitement génétique antérieur à l'implantation et intervention avec des conséquences imprévisibles. Cette pratique-là aussi rend possible l'introduction des préférences et des choix personnels lors de la conception de l'embryon. Là, on entre dans des questions de transhumanisme, en quelque sorte. La création des embryons surnuméraires en elle pose problème, car l'Église refuse cette notion. Elle ne peut accepter qu'il existe des êtres humains en surplus, dont la destinée est déterminée par des tiers. Le document soulève tous les problèmes liés à la congélation et le futur de ces embryons. Que vont-ils devenir? Au cas du décès, du divorce ou par le simple fait que les parents ont abandonné ce qui est appelé aujourd'hui le projet parental, est-il préférable de les détruire ou qu'ils soient donnés à d'autres couples, ou à la recherche, ce qui implique leur destruction? Voilà les questions qui sont ouvertes et qui demandent une véritable réflexion. Le don de gamètes, du sperme ou d'ovule, introduit le risque de l'affaiblissement, de la contestation de la relation parent-enfant, ou d'une relation déséquilibrée entre les deux parents et l'enfant, puisque l'un des deux parents est naturel, tandis que l'autre joue le rôle du beau-père ou belle-mère, ou à l'interférence d'une mère porteuse dans la relation sacrée des parents génétiques avec l'enfant. Toute forme de fécondation hétérologue revient à discréditer le sens de la maternité et de la paternité. Le risque des gestations multiples entraînées par le transfert de plusieurs embryons est aussi possible. La GPA, on reconnaît un volet positif. Ça m'a vraiment surpris. Et parce qu'il est dit que ça peut être au service de la grossesse dans l'amour. Je me suis dit, ah, finalement, c'est un document écrit par les hommes. Étant donné la relation qui se développe avec l'embryon pendant la grossesse est essentielle et constitue une part indissociable de la maternité et du développement de l'embryon également. La poursuite de la relation mère-porteuse-enfant défavorise les parents génétiques d'une part, et d'autre part, Son interruption défavorise la mère porteuse et surtout l'enfant. On n'en parle plus de la psychologie prénatale et pourtant, à un moment, on en avait tellement insisté sur son importance. Pour cette raison et surtout parce que ceci bouleverse la cohésion familiale, l'Église trouve difficile de bénir une telle déviation par rapport au processus naturel. Et alors là, la procréation pour les femmes seules doit être rejetée parce que d'une part, ceci sous-entend une naissance hors mariage et d'autre part, c'est injuste pour l'enfant dans la mesure où cela présume qu'il soit élevé en l'absence d'un père. Dans cette même catégorie se trouvent les conceptions post-mortem. Il en va de même pour la procréation chez les mères trop âgées. Ce genre de conception résulte du désir, le document le formule ainsi, égoïste, de la mère d'avoir un enfant malgré le fait que les conditions que la nature elle-même donne à la mère d'élever cet enfant sont limitées. L'enfant ainsi conçu apportera certes la joie de la naissance à ses parents, mais lui-même n'aura que des possibilités restreintes de jouir de la présence naturelle de ses parents et encore moins de la vigueur de leur jeunesse. Les lois de la nature elle-même déterminent les paramètres de développement d'un être humain. Quant au couple de même sexe, la fécondation artificielle donne la possibilité d'avoir des enfants, même à des couples homosexuels, et l'Église devra s'opposer par tous les moyens à une telle possibilité, car elle constitue non seulement une anomalie naturelle, mais également une perversion morale avec des conséquences psychologiques catastrophiques pour l'enfant et pour la société. Je m'arrête brièvement là. En 2015, l'Église de Russie, le patriarcat de Moscou, s'est exprimé aussi sur cette question. Quoi faire avec des enfants qui viennent des couples homosexuels et puis qui ont été conçus de manière artificielle? Ils ont dit que l'enfant peut être baptisé, mais en s'assurant que le cadre et la famille dans laquelle il va grandir pourrait assurer son enseignement, son intégration dans la vie de l'Église. Donc que ce n'est pas l'enfant qui doit subir les conséquences d'une pratique parentale. Les tests préimplantatoires conduisent souvent, lorsqu'une anomalie est constatée vers l'interruption de la grossesse, et présente aussi le risque d'une certaine sélection de caractéristiques. Sexe, couleur des cheveux, des yeux, etc. Ou bien la destruction des embryons dont les caractéristiques ne sont pas désirées. Ce que nous venons de dire présente l'insertion d'une conception eugénique de la vie. Donc la pratique n'est peut-être pas problématique en tant que telle, mais ce qu'elle peut induire par la suite est problématique. Toutes ces pratiques ne sont pas toujours clairement eugéniques dans leur expression, mais elles sont eugéniques dans leur esprit. Elles ne parviennent pas à éviter l'apparition des handicaps, mais habituellement, elles font disparaître l'handicapé. La thérapie donc proposée semble être la destruction de l'embryon pathologique. Maintenant, après avoir exposé ces trois documents et leur position, s'il me reste encore du temps, on va voir comment on peut penser les propositions. Ce qu'on peut suggérer, c'est d'interroger le rôle de la technologie. Comme le souligne bien le document de l'Église de Grèce, il ne fait aucun doute que la technologie moderne ait contribué de façon inestimable à la recherche en matière de santé et qu'elle promet de le faire encore davantage. Cet état de fait est une exceptionnelle bénédiction de Dieu pour notre époque. On ne peut pas se passer des lunettes, de pacemakers, et tout ce que la médecine peut faire aujourd'hui. Cependant, son usage non mesuré menace l'homme avec sa désacralisation et rend latent le danger qu'il soit considéré comme une machine avec des pièces de rechange et des accessoires. L'homme, s'il n'y prend garde, dirige non pas simplement la technologie, mais il est dirigé aussi par elle. Il est attiré par ses succès et s'y est assujetti. Au nom de la liberté du progrès scientifique et technologique qui vise à étendre sa souveraineté sur la nature, c'est possible qu'il détruise sa propre liberté, donc en devenant trop dépendant. La réussite n'est pas seulement la découverte talentueuse d'une nouvelle technique révolutionnaire, dont les limites réellement démesurées de la génétique mécanique, mais aussi la réponse effective aux multiples problèmes, qui sont génétiques, psychologiques, sociaux, moraux, économiques, légaux, etc., qui découlent d'une application inconsidérée, notamment en matière d'intervention dans la fécondation. Donc, le document insiste, quand on y réfléchit sur ces sujets-là, d'en prendre en compte les différents aspects d'une société, d'une condition humaine. Il faut aussi s'interroger sur les intérêts financiers. Il peut y avoir des intérêts financiers incontrôlés des médecins, des cliniques et des entreprises. Et là, il ne faut pas fermer les yeux. Quant à l'acte du don se transforme à celui de la pratique de commerce, acte qui est désormais tellement facile et en fait incontrôlable, risque de dévaloriser la reproduction en un acte de transaction économique et d'une dégénération de l'amour en relation d'affaires. Il faudrait bien évidemment s'interroger sur l'intérêt de l'enfant. Nous tenons compte de la demande psychologique et des besoins des parents et non de l'éventuel effet négatif sur le psychisme des enfants. L'éventualité qu'un tel enfant traverse une grave crise d'identité, ensuite de sociabilité, est un paramètre sérieux, surtout lorsqu'il apprend qu'il n'est pas porteur des caractéristiques génétiques de ses parents et qu'il ignore qui sont ses parents génétiques ou qu'il se rend compte que son degré de parenté avec ses deux parents est différent ou encore qu'il a deux ou même trois mères, etc. Les problèmes de ce type se posent avec plus d'acuité dans le cas où l'unité de la famille a été brisée et que s'en suivent des conséquences juridiques. Des problèmes similaires d'ordre psychologique peuvent également apparaître chez les parents, notamment en cas de la fécondation hétérologique ou hétérogène, et des droits de relation de parenté contestables ou d'échec des méthodes de reproduction artificielle et de brusque anéantissement de leurs plus chers espoirs et attentes. Souvent, c'est avéré en voulant construire le couple en entrant dans les pratiques médicales, ça menait à une déconstruction du couple. Quelle est donc la position de l'Église ? L'Église ne récuse pas, sous divers aphorismes, les questions de bioéthique et par conséquent la reproduction assistée, mais les laisse ouvertes à une réflexion, donnant parallèlement l'orientation et décrivant l'esprit selon lequel il faut les aborder. Ce qu'elle offre, ce n'est pas une définition générale de la volonté de Dieu, mais la possibilité pour chacun de la reconnaître lui-même dans sa vie. Donc l'Église ne peut se positionner autrement que dans la relation de la vie humaine à Dieu. Elle considère la naissance de chaque être humain comme inscrite dans le cadre du mystère du mariage. C'est pourquoi elle conçoit que le mystère du début de la vie humaine se réalise au sein d'une union monogamique hétérosexuelle bénie par le mystère du mariage. La sanctification humaine ne se réalise pas uniquement par la procréation, mais également sans elle. L'Église bénit la procréation, mais elle considère également le mariage sans enfant comme un mariage complet. La stérilité biologique peut s'avérer l'occasion d'une riche fertilité spirituelle pour les époux s'ils acceptent avec humilité la volonté de Dieu dans leur vie. Au contraire, si le désir d'avoir des enfants devient une volonté inflexible, il est le signe d'une immaturité spirituelle. En outre, l'Église devrait exercer son influence de sorte à infléchir les conceptions sociales erronées sur la stérilité. Que l'image que la stérilité, que la société nous envoie, devrait être questionné par les églises. De manière que les pressions soutenues du milieu social sur les couples stériles soient minimisées dans la mesure du possible, et notamment de manière que les couples concernés se rendent compte qu'une carence dans un domaine de la vie, aussi vital soit-il, là, personne ne dit le contraire, s'accompagne habituellement d'un grand nombre de possibilités dans d'autres domaines qui attendent leur accomplissement. Notre bonheur et notre destin ne sont pas accomplis par la violation de la nature ou la persistance de nos volontés, mais par la mise en valeur de nos capacités. Là, en disant nature, je n'entends pas uniquement la nature biologique. L'Église pourrait promouvoir et encourager l'adoption des enfants. Ceci reste une procédure très compliquée dans la majorité de nos pays, je parle orthodoxes. Mais ici, c'est aussi le même cas. L'adoption des embryons surnuméraires demande encore à être réfléchie. Donc l'Église ne s'est pas encore positionnée là-dessus. Mais de cette manière, certains embryons peuvent être sauvés et la mère peut vivre le lien de la grossesse avec l'enfant, tandis que l'enfant qui en naîtra aura plus le sentiment d'avoir un lien de parenté solide avec ses parents et moins d'être le fruit d'une adoption. Donc là, le document, enfin, et les positions qu'on peut retrouver dans des églises divergent un peu. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Enfin, comment est-ce que cette adoption sera vécue si il y a les crises qui se présentent dans le couple ou si l'enfant commence à questionner ses origines génétiques, en tout cas. L'éventualité d'un problème résulte de l'identité biologique confuse de l'enfant, ce qui ne se pose pas dans le cas de l'adoption classique. Quelles pourraient être les orientations pastorales? Il est indispensable d'être informé sur tous les niveaux. La connaissance des techniques employées pour la procréation artificielle ainsi que les principales positions de l'Église à ce sujet aident les intéressés à prendre position d'une manière responsable concernant ces sujets. Donc c'est encourager la connaissance sur les techniques qui sont utilisées. L'Église ne peut par principe recommander le recours à la reproduction assistée pour faire face au problème de l'absence de l'enfant. Son rôle n'est pas non plus d'approuver des décisions. Donc c'est un cheminement personnel de chaque couple. Elle peut et doit faire face au problème dans la mesure où il est désormais une réalité qui s'est créée indépendamment de sa volonté ou de son souhait, non pas certainement d'après la précision théologique, mais en vertu de l'économie spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une akrivia, quelque chose qui est de l'ordre de la règle, et après il y a l'économie, qui est une façon de réfléchir ensemble avec les couples qui se présentent avec certaines questions de cet ordre-là. Conformément à ce qui précède, lorsqu'on le lui demande, elle doit préciser l'esprit et la morale de son enseignement clairement et librement. Dans ce contexte, et en tenant compte du fait que les parents d'aujourd'hui se trouvent confrontés à un grand défi tout en faisant l'objet de pressions intenses, alors que les résistances sont limitées, que leurs réserves de foi et de force intérieures sont réduites, l'Église pourrait suivre les pas suivants pour orienter les fidèles. Premièrement, elle pourrait rendre manifeste et réelle sa compréhension et son amour. Que sa parole soit emplie d'esprit et de vérité, mais aussi de sympathie et philanthropie. Deuxièmement, elle pourrait exprimer l'importance immense de la nécessité de conserver le caractère sacré du mariage en tout cela, c'est-à-dire laisser l'espace pour la grâce de Dieu. D'habitude, les épreuves et les privations constituent des occasions uniques de confirmation de la présence de Dieu dans notre vie. Troisièmement, elle pourrait informer les fidèles sur le contenu exact de ces méthodes en discussion et mettre en évidence les problèmes éthiques et spirituels qui en découlent. Quatrièmement, elle peut rendre clair que par la suite de tout cela, donc conception asexuelle, embryon surplus, possibilité de déviation, possibilité d'intervention et de modification génétique avant l'implantation, etc., l'Église trouve difficile de bénir ces pratiques et adopter des voies étrangères à son esprit. mais est appelé à y réfléchir et de ne pas former des ghettos dans la société, mais de faire partie du contexte social dans lequel elle est et porter une voie de mission. Cinquièmement, dans les cas où la procréation bouleverse l'ordre familial normal, mère non mariée, fécondation par le sperme de l'époux décédé, procréation des mères trop âgées, fécondation hétérologue, dont l'utérus, etc., il est déjà clair qu'une chose pareille ne trouve pas l'accord de l'Église en tant que telle. Sixièmement, lorsqu'il s'agit de parents qui, pour des raisons particulières, ne peuvent pas se résigner, qu'il leur soit proposé chaleureusement l'idée de l'adoption, ou dans le cas où cela n'est pas possible, qu'il soit accepté selon l'économie de l'Église, la fécondation qui atteint son but, par des méthodes qui cependant ne créent d'embryons en surplus, ni ne comportent aucune forme de don, ni ne laissent aucune marge à la destruction d'embryons. En pratique, cela se fait, et l'Église finalement chemine avec les couples. Je le dis parce que c'est important de savoir, elle dit que selon l'éthique de l'Église, la vérité, en fait, l'enseignement est tel, mais dans la pratique, il y a des cas où ces pratiques sont faites et donc je ne voyais pas que les personnes ont été privées de communion, mais simplement, ils continuaient à cheminer ensemble avec la communauté, avec l'Église, et de réfléchir ensemble sur ce qui a été fait et les éventuelles conséquences qui peuvent advenir pour être mûries, pensées ensemble. Donc de ne rejeter personne. Enfin, on n'en est pas privé, ça existe, les stigmatisations des uns et des autres. L'Église pourrait également accepter l'assistance à la reproduction par gamète uniquement des parents, l'implantation dans l'utérus de la mère et la fécondation d'autant d'embryons que de ceux qui seront implantés. Quant aux prêtres, ils devront enseigner avec humilité et dans la foi le besoin des fidèles de revenir à des modes de vie plus naturels et spirituels. Il est en effet bien connu que le mode de vie, la tension et le stress qu'on subit de manière quotidienne ont comme résultat l'ébranlement de la confiance des hommes et d'autres facteurs relatifs qui se trouvent en fait comme étant une source, une raison pour l'infertilité d'aujourd'hui. Donc le stress, les tensions et le mode de vie est souvent la raison primaire de l'infertilité. L'Église donc peut proposer une perception de vie moins sécularisée qui garantit la simplicité, la paix, la frugalité, la confiance mutuelle des époux, le recours à l'assistance médicale et en même temps la remise de notre vie entre les mains de Dieu. La prière liturgique individuelle, la participation active et spirituellement guidée au mystère de l'Église, la culture de l'amour, de l'écoute, le recours aux intercessions des saints, les pèlerinages humbles, etc., constituent souvent les moyens que l'Église met en place et il s'est avéré par l'expérience qu'en étant pratiqué, ils introduisaient quelque chose de nouveau dans la vie des couples et permettaient souvent à en tirer, si vous voulez, bénéfice et de résoudre de manière naturelle les problèmes de l'infertilité ou même de confrontation avec le problème de non-possibilité d'avoir donc, des enfants. En outre, l'Église envisage toute la question de la reproduction humaine dans une perspective plus large. Ainsi, même si l'acquisition d'enfants en elle-même constitue un don de Dieu, une bénédiction, pourtant l'intérêt des parents doit se concentrer sur un fait plus important. Parallèlement à leur propre perfection en Christ, il faut qu'ils s'occupent de la bonne éducation, du progrès en Christ et du développement de leur enfant, de sorte qu'ils puissent dire un jour « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés » selon Hébreux 12, 13. Donc, quelles sont les questions à retenir? D'abord, à qui est-ce que l'on s'adresse? Il me semble très important de savoir Est-ce que l'Église, quand elle se prononce sur ces sujets-là, s'adresse à la société en général ou aux fidèles de l'Église? Les paroles ne sont pas les mêmes, les méthodes ne sont pas les mêmes et les demandes ne sont pas les mêmes. De quelle application de la PMA, GPA, s'agit-il? Il faudrait faire la distinction toujours d'une application sociétale, d'une application médicale. Et quels sont les enjeux d'une telle demande? Chaque fois, regardez les enjeux personnels, communautaires et sociétal. Et il faudrait aussi réfléchir à la question comment s'engager dans le débat sans créer des polarisations, puisqu'on en a tellement aujourd'hui. Je vous remercie et je laisse la parole à mon collègue. J'espère que je n'étais pas trop...
Merci.
Cet exposé synthétique, ça n'a pas dû être simple. On va peut-être une ou deux questions, parce que le temps tourne. Sinon...
On peut passer oui. À la...
À plusieurs reprises, vous avez parlé d'encourager les parents à adopter des enfants. Mais est-ce que l'adoption ne suscite pas, ne provoque pas, elle aussi, des problèmes psychologiques très, très graves à une période de l'âge, enfin, à un âge soit petit, soit même quand l'enfant est devenu adulte.
Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison et c'est tout à fait vrai. Mais là, l'enfant est né. Donc l'Église part du fait que l'enfant déjà existe et que si on est en désir d'enfant, peut-être c'est mieux d'adopter un enfant déjà existant que d'en créer un qui va peut-être souffrir des conséquences que les parents ont pris d'eux-mêmes.
Mais on voit que déjà, il y a plus de parents en recherche d'adoption que d'enfants à adopter. Puisqu'on a, il y a eu des affaires de rapt d'enfants pour les confier à des familles européennes. Il y a eu des enfants qui ont été plus ou moins achetés dans certains pays. Enfin, il y a déjà eu pas mal de dérives là-dessus.
Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est la raison pour laquelle les démarches sont tellement lourdes que souvent les personnes désistent à les en faire parce qu'ils savent que ça va durer bien plus longtemps qu'une pratique de la procréation médicalement assistée. Oui, effectivement, cela pose des problèmes. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas de solution, mais des réflexions à faire et peut-être de cet ordre-là, de réflexion, de voir les moyens et des pressions peut-être qui pourraient se faire de cet ordre-là sur la société. Dans la mise en pratique enfin, d'une ou de l'autre voie.
Merci. Une autre question ? Bon, ben, merci. Donner la parole au pasteur André.
Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, même si la venue jusqu'ici a été un peu compliquée en raison des intempéries, de la circulation, mais je suis là.